de mitzvah. Ou par exemple, vous savez qu'à Pessah, nous devons manger des matzot. Eh bien, si je mange des matzot à Pourim, j'ai mangé des matzot, mais pas, j'ai pas fait Pessah. Vous voyez le problème. C'est la raison pour laquelle, je vous dis ça en passant, entre Pourim et Pessah, on mange pas de matzot pour pouvoir lire Shechianu sur la mitzvah à Pessah. Un petit détail de Shulchan Aruch en passant, c'est pas inutile. Alors, en tout cas, pour revenir à notre problème. Voilà comment la Mishnah pose la question. À partir de quand on dit le Kriyat Shema du soir? Est-ce que tous les mots sont clairs maintenant? La question ne se pose pas. À partir de quand on dit le Kriyat Shema du soir? Le soir. En réalité, la Mishnah a voulu poser une question très importante. Quand on commence le soir pour cette mitzvah du Kriyat Shema? Parce que je pourrais commencer le soir à des moments différents, pour des mitzvot différentes. Par exemple, je peux commencer le soir au coucher du soleil. Quand la lumière de la journée a quitté le ciel, a quitté le monde, c'est pas encore la nuit, mais c'est déjà plus le jour. Peut-être que le soir commence là, au coucher du soleil. Ou bien, au contraire, je peux commencer le soir à la nuit, c'est-à-dire à l'apparition des étoiles. Le fait que je puisse voir les étoiles, c'est le signe que la lumière du soleil qui nous a quittés, nous a vraiment quittés. Parce que tant qu'elle était là, je ne pouvais pas voir les étoiles. Donc nous avons deux moments, et il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs, entre, et à tous les petits moments possibles et imaginables, où je pourrais dire que c'est le soir. Mais pour cette mitzvah en particulier, à partir de quand c'est le soir? Comment ça se rattache à notre sujet? Ça va venir. Okay. Et alors la Gemara donne trois ordres de réponse. Elle donne sept opinions, mais qui se rangent dans trois ordres de réponses, que je vais vous énumérer directement en français. Vous allez vous-même découvrir le décodage du sujet. La première réponse officielle, qui est donnée avec certaines nuances, mais elle se groupe dans une première direction de réponse, c'est « Tu veux savoir quand c'est le soir pour dire le Kriyat Shema ?» C'est-à-dire, quoi le Kriyat Shema ? La proclamation de foi qui fait de moi un juif relié à la Torah des Hébreux ? Eh bien, c'est quand c'est le soir, pour le Kohen, lorsqu'il peut, après son impureté du jour précédent, commencer son rite de Kohen. Référence avec le Kohen. Derrière l'analogie du moment où commence le temps légal de la mitzvah, il y a une analogie de fonction. Qu'est-ce que c'est dire le Kriyat Shema, proclamer qu'on est juif? Et ici, la première question du Talmud, c'est qu'est-ce que c'est un juif? Première réponse, celui qui fait comme le Kohen, qui prend son service à la manière du Kohen. Qu'est-ce que le Kohen? Ça nous renvoie à l'identité des Hébreux d'après la Bible. Qu'est-ce que c'est que le peuple de la nation hébraïque, sorti d'Égypte, recevant la Torah, l'alliance de la prophétie, la loi des prophètes, je ne dis pas la loi et les prophètes, la loi des prophètes, eh bien c'est « Ve'atem tihuli mamlechet kohanim begoy kadosh ». Vous serez pour moi, mamlechet kohanim, un royaume de kohanim, de prêtres, et une nation sainte. Vous voyez, quelle est l'intention de notre Mishnah dans cette première réponse? Comment doit-on être juif? Comme les prêtres hébreux, à la manière de la vocation hébraïque. Ça veut dire on continue à être hébreux, bien que la prophétie ait cessé. C'est là qu'apparaît le phénomène juif, dans toute son mystère d'éternité. C'est les hébreux qui continuent, bien que le temps historique des hébreux semble, dans l'apparence, avoir disparu. Qui sont les juifs, dans cette première réponse? C'est aller chercher ça dans le verset où Dieu a parlé à Israël au pied du Sinaï, et c'est donc évidemment le chapitre 19 de l'Exode, et où il lui a dit « Ve'atem tihuli mamlechet kohanim egoi kadosh ». Nous verrons très rapidement que ça c'est l'option pharisienne. Mais la Gemara, est-ce que c'est clair jusque-là? Parce que, après tout, je vais vous rendre les choses un peu plus claires. Après tout, est-ce qu'on ne savait pas depuis Moïse quand on dit le Kriyat Shema le soir? Est-ce que c'est une question nouvelle? Non. Voilà ce qui s'est passé. Entre-temps, le temple a été détruit. Entre-temps, la prophétie s'est arrêtée. Alors, première question. Et maintenant, à partir de quand on dit le Kriyat Shema? Ça veut dire à la manière de qui on va affirmer la proclamation de foi? La réponse orthodoxe du Talmud, c'est à la manière des Kohanim. Quand un Kohen reprend son service chaque jour, et ça commence le soir, nos jours, okay? Quand un Kohen reprend son service, eh bien c'est à ce moment-là qu'il est de nouveau Kohen en service. Alors à ce moment-là, tu commences ton service de juif. C'est-à-dire ton modèle, c'est le Kohen. Ça y est, c'est clair? Mais la Gemara nous a donné deux autres directions de réponse qui ont aussi leurs nuances. Et je vous les donne très schématiquement, ne serait-ce que pour vous donner envie de faire cette page de Gemara dans un des séminaires de textes. Et le deuxième ordre de réponse, c'est à l'heure où le pauvre entre pour manger son pain dans le sel. Je vous répète les deux formules. Premièrement, à l'heure où le Kohen entre pour manger sa terouma, et la terouma, c'était la nourriture consacrée qu'on envoyait au Kohen et qu'il avait seul le droit de manger en état de pureté. Okay? Ça c'est Misha'ash et Akohanim Nichnasim Lechol Bitroumatan. Deuxième réponse, Misha'ash et Ani Nichnas Lechol Pitobamelah. Ce qui signifie à l'heure où le pauvre entre dans sa maison pour manger son pain dans le sel. Qu'est-ce que c'est que cette chita là? Qu'est-ce que c'est que cette tendance? Bien. Et quelle méthode employer d'ailleurs? Ça fait rien. En analyse. Vous voyez, deux références à la nourriture. Déjà, la troisième aussi sera une référence à la nourriture. Mais c'est pas tellement le thème que je voudrais analyser. La première référence, c'est la référence à la conduite de l'hébreu en tant que Kohen. La deuxième référence, c'est la référence au pauvre. Bon, je vous ai traduit pauvre en français, mais il faudrait dire humble. À celui qui a fait vœu de pauvreté, à celui qui a l'option de ne pas être inséré dans le circuit économique de la cité. Il est le hani qui reçoit le pain de la charité. Vous voyez déjà se dessiner la figure de l'ascète, la figure du, je ne sais pas comment on peut dire en français, moine mendiant, si vous voulez, ou la figure de ces moines, des grands ordres qu'on trouve dans l'islam, qu'on trouve dans les religions extrêmes orientales ou même chez les bouddhistes, où on se retire de la société, on a fait vœu de pauvreté, c'est ça un vrai pauvre dans le langage biblique, dans le sens de humble. Et alors, quelle est sa nourriture? C'est la nourriture du pain et du sel. Ça fait allusion à la motzi, n'est-ce pas? Mais il n'a que ça pour son repas. Et alors, c'est pas la même heure. Parce que, va nous dire le commentaire, le pauvre n'a pas de lumière pour éclairer son repas. Alors il est obligé de prendre le repas du soir alors qu'il fait encore un peu jour. Vous voyez, c'est pas exactement la même heure. Bon, troisième direction. Là, c'est qui ça, les pauvres qui mangent leur pain et leur sel, et c'est ça leur modèle d'option religieuse? Disons très schématiquement la tendance des Esséniens. Et puis, troisième réponse, à l'heure où le Baal HaBayit, c'est-à-dire le maître de maison, entre chez lui le vendredi soir pour fêter le Shabbat, et à l'heure de son repas du vendredi soir. C'est-à-dire là, le modèle, je vous le dis tout de suite, il est sadducéen. Toute la semaine, eh bien, on vit dans le monde, le Shabbat rentre chez soi pour le repas de sainteté. Vous voyez, trois modèles différents. Ce qu'il y a d'extraordinaire d'ailleurs dans cette page de Gemara, c'est la question que la Gemara se pose. On vient de décider qu'on fera comme les Kohanim, et je reviendrai sur cette analyse. On fera comme les Kohanim, pourquoi pas à cause de l'heure? L'heure est comme ça parce qu'on a décidé que l'option juive sera l'option hébraïque. Est-ce que c'est clair comme analyse? Vous comprenez? C'est pour indiquer que notre option, c'est de continuer l'identité hébraïque, que l'heure est celle des Kohanim. C'est-à-dire la sortie des étoiles et pas le coucher du soleil. Et il y a énormément d'implications au second, au troisième degré dans tout ce problème, mais je ne retiens très schématiquement que ce qui concerne notre sujet. Et alors, apparaissent là trois options de ce qui aurait pu suivre le temps des Hébreux. Une fidélité à la piété hébraïque dans le type ascétique, monacal, les Esséniens. Certains historiens disent que le christianisme sort des Esséniens. Ce n'est pas mon avis personnel, mais là, comme je ne suis pas un historien, ce n'est pas grave. Okay? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une controverse d'ailleurs là-dessus. D'après ce que j'ai pu comprendre de ce problème, les chrétiens ne sortent pas du tout des Esséniens. Les chrétiens, c'est un schisme des pharisiens. Ça sort du pharisaïsme et dans un refus du pharisaïsme. Mais l'inspiration des premiers chrétiens n'était pas du tout essénienne, elle était pharisienne. Ensuite, la théologie chrétienne s'est notablement modifiée, mais elle sort d'un conflit avec l'option pharisienne. Bon, vous aurez des historiens, très honorable, et qui vous diront le contraire. Il continue à être honorable d'ailleurs. Mais ce n'est pas un problème d'histoire, c'est un problème de tradition. Vous comprenez, c'est un autre problème. Et l'option sadducéenne Eh bien, c'est cette option qui consiste à être dans la culture du temps pendant la semaine du travail. Et puis, il y a un jour consacré à la religion. Je ne voudrais pas être trop, comment dire, brutal, mais on est obligé d'être schématique parce que les problèmes sont trop nuancés pour entrer dans les détails. Mais nous avons dans les communautés religieuses contemporaines, sous forme d'amorce de tendance, ces trois tendances possibles. Et je crois que c'est pas ce que je veux dire vraiment, mais je suis obligé de prendre un point d'appui d'illustration. Le sadducéen de ce texte, c'est-à-dire celui qu'on prendrait pour modèle, qu'est-ce que c'est que le soir ? C'est le moment où on rentre de la semaine pour commencer son Shabbat. Ça ressemble beaucoup au juif consistorial. Vous comprenez ? Et je crois que vous l'avez deviné par vous-même. Je ne veux pas dire du tout que la communauté consistoriale, c'est déjà du sadducéisme. Je n'ai pas parlé de ça. Mais vous voyez comment nous avons là une analyse sociologique très importante derrière un problème qui était un problème apparemment purement rituel, qui est aussi un problème rituel, mais qui est chargé de signification d'option. Et la secte des Esséniens s'est perdue. Mais la tendance à l'essénisme ressurgit dans la communauté juive à chaque temps sous des noms différents. Je ne veux pas identifier. Mais nous avons en France des communautés de genre essénien, des communautés de genre sadducéen et les communautés de genre pharisien. Tout ça, c'est la société des juifs. Mais historiquement, la permanence de la tradition n'est jamais passée que par les pharisiens. C'est pourquoi, parce que ces sectes sont, comment dire, épisodiques. Ce sont des péripéties de l'histoire d'une société. La tendance, elle, est permanente. Mais les sectes historiques ont toujours disparu. N'est restée que la ligne centrale de la fidélité de type pharisien. C'est-à-dire, nous continuons l'option hébraïque. C'est ça le pharisaïsme. Dans toutes ses dimensions, en tant qu'option nationale, en tant qu'option religieuse, sacerdotale, de sainteté, méthodologique, idéologique, de culture, tout, nous continuons les Hébreux. C'est ça les pharisiens. Dès qu'on commence à faire un compromis avec quoi que ce soit d'autre, c'est déjà plus les pharisiens. C'est des sadducéens plus, prime, tierce, je ne sais pas comment on dit, aleph, bet, gimel, ou des esséniens plus, moins, c'est déjà autre chose. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puisque nous avons des boucheries communes et des cimetières communs. Mais, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ces tendances travaillent de façon permanente. Nous retrouvons ce problème à la table ronde dimanche. Où est là la difficulté du texte? C'est que nous savons par tradition que, et encore quand j'ai dit les boucheries communes, je crois qu'il ne reste plus que le cimetière commun déjà. Mais revenons à notre problème. Nous savons par tradition que chaque opinion citée par l'étude talmudique, même lorsqu'elle n'est pas retenue, est une opinion kachère, est une opinion authentique. Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Celui qui a dit il faut faire comme le hani, le pauvre qui mange son pain dans le sel, c'est kachère. Celui qui a dit il faut faire comme le Baal HaBayit, le notable qui rentre le vendredi soir chez lui, c'est kachère, c'est dans le Talmud. Quel est le problème? Il y a eu un temps où l'option individuelle pouvait être comme ça et comme ça et comme ça et c'était dans la communauté. Mais il y a eu un temps où les sectes se sont multipliées et où il fallait donner la règle de la collectivité, la règle de la communauté. Et c'est pourquoi on a tranché. La règle, le modèle de la collectivité, c'est de faire comme les Hébreux. Il peut y avoir à l'échelle individuelle des individus de cette même communauté de filiation ethnique, mais qui font plutôt comme à la manière des Esséniens, ou plutôt à la manière des Sadducéens, c'est cachère, tant que ça reste une option privée, individuelle, qui ne s'érige pas en règle pour la communauté. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? C'est pourquoi, historiquement, ces sectes-là disparaissent. Parce que leurs individus sont juifs tant qu'ils sont contemporains des pharisiens. Mais dès qu'ils s'érigent en judaïsme autre que le judaïsme traditionnel, ils ont leur histoire et ça disparaît. La tendance est permanente, mais les sociétés, les organismes, si vous voulez, non, comment dit-on en français, les institutions, elles, disparaissent. Voilà pour ce premier point. Mais la deuxième question, que je dirai assez rapidement, sur cette Gemara est la suivante. Et là, c'est plein d'humour. D'ailleurs, c'était plein d'humour depuis le début, mais je ne suis pas arrivé à le rendre, n'est-ce pas ? C'est ceci. Alors que la Gemara sait déjà que la règle, c'est de faire comme les Kohanim, et pour notre sujet, je crois que c'est important de le rappeler encore, ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un pharisien ? C'est un juif qui se veut hébreu, bien que le temps des hébreux ait apparemment disparu. Alors, la Gemara discute, mais qui était avant comme temps ? Est-ce que le temps du pauvre, c'est avant le temps du Kohen ? Ou est-ce que c'est le temps du Shabbat qui est avant le temps ? Vous voyez ce que je veux dire ? Question, comment dire, apparemment inutile. On a déjà décidé qu'il faut faire comme le Kohen. Pourquoi tu te préoccupes de savoir si le temps du pauvre qui vient manger son pain, c'était avant que le Kohen dise son kidouche ou que le notable dise l'echadodi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'a aucune importance pour la halakha. En réalité, c'est très important. Il y a une discussion qui dure toute une page, où on établit que finalement, le temps du Baal HaBayit, le consistorial, si vous voulez, le vendredi soir, ça c'est avant le temps du Kohen. Alors c'est pas kasher. Pourquoi ? Parce qu'il a fait quelque chose, mais c'est pas le rite, puisque le rite ne prend force de rite qu'au temps du rite. C'est clair ? Bon. Tandis que le temps du Hani, lui, il est après le temps du Kohen. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a une préférence pour cette manière d'être juif qui ne serait pas très orthodoxe, le pauvre qui mange le pain dans le sel, vous comprenez, un peu la tendance essénienne, plutôt que pour l'autre. L'autre, on l'évacue de la halakha, alors que celle-là, on la protège un peu. Il y a une espèce de tendresse des pharisiens pour les esséniens qu'on ne trouvera pas pour les sadducéens. Vous voyez à peu près le problème, je peux clore déjà cette première analyse, simplement en rappelant que la véritable étude consisterait à se demander pourquoi on a pris le critère de la nourriture comme critère de ces trois tendances. Je vous renvoie à d'autres études possibles. Et voilà donc ce que nous devrions avoir à l'esprit si nous nous posons la question dans le temps contemporain. Comme elle se formulera de plus en plus, qui sont les pharisiens d'aujourd'hui ? Hein ? Et alors je crois que la réponse vient d'elle-même. Ceux qui ont continué ce parti pris, cette option des judéens de continuer la vocation des hébreux en tant que nation, en tant que religion, en tant que culture, en tant que conception du monde, en tant que héritier des hébreux. Toute concession faite à cette définition-là est déjà un phénomène de secte. Deuxième analyse, et je pense aller un peu rapidement, mais quand même je crois qu'elle est assez importante. Le mot d'où nous avons pris le terme français de pharisien, et que j'ai indiqué tout à l'heure, qui sera repris dans d'autres études, dans d'autres conférences, c'est le mot de parouche. Mais c'est la traduction en langage talmudique du mot de kadosh. D'une certaine manière, nous dirions donc que l'option pharisienne, c'est l'option de la sainteté. Là, nous sommes un peu gênés par le vocabulaire, et comme il ne reste pas beaucoup de temps, je voudrais aller rapidement. Simplement vous rappeler pour mémoire une controverse entre Maïmonide et Nachmanide sur l'option de sainteté. Déjà, il s'agit du verset, oui, du premier verset de la paracha de Kedoshim. Si vous voulez la référence, c'est le chapitre 19 du Lévitique. Verset 2. D'abord, El Kol Adad Bene Israël parle à toute l'assemblée d'Israël. Vermarta Lehem, et tu leur diras Kedoshim Tihu, vous serez saints. Kedoshim. Rashi traduit en langage rabbinique Kedoshim, ça veut dire Perushim, séparé de l'impureté, l'option de la sainteté. Et là, il y a une grande controverse chez nos théologiens. Et je vous cite simplement en articulation Maïmonide et Nachmanide. Maïmonide dit ceci. Lorsque la Torah a dit ce verset, et ça vous l'avez dans le quatrième principe du Sefer HaMitzvot, le quatrième principe du livre des commandements de Maïmonide, qui nous dit ceci. Lorsque la Torah nous donne un commandement qui récapitule tous les autres commandements, il n'est pas un parmi les commandements, mais une exhortation. Et cela veut dire qu'il n'y a pas un commandement particulier d'être saint dans la loi. Mais qu'est-ce que ça veut dire être saint selon Maïmonide ? Ça veut dire pratiquer la loi. Et d'une certaine manière, c'est une exhortation récapitulative de tous les commandements. La tradition semble avoir suivi cette voie, puisque Chaque fois que nous pratiquons une mitzvah, une bonne action, un rite, nous disons Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kiddeshanu Bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Tous les commandements nous sanctifient. Pratiquer l'ensemble de la loi, c'est ça le moyen de devenir kadosh, de la sainteté. Il n'y a pas un comportement particulier de la sainteté. Ça, c'est l'avis de Maïmonide. Nachmanide dit tout le contraire. Nachmanide dit, nous avons un principe de l'enseignement du Talmud qui tient compte de ce verset comme un commandement particulier. Lequel ? C'est le principe suivant. Kadesh et atzmecha bema shemutar lach. La Torah a légiféré, elle a donné les commandements, mais elle a laissé un domaine neutre. Elle a laissé ce qui peut être permis. Alors, le parti pris de sainteté, c'est précisément de trouver la sainteté en s'interdisant à soi-même ce qui reste permis par la loi. Et donc, nous aurions là cette option du parouche, les pharisiens, c'est l'option de la kedusha au-delà du légalisme de la loi. Avec Nachmanide. Pour, résoudre cette controverse, parce que je n'ai pas cité du tout le minimum d'éléments qu'il faut pour comprendre les données du problème, je le dis en passant, je vous indiquerai une référence dans l'enseignement du Rav Kook, qui se trouve dans le Orot HaKodesh, le troisième volume, et qui est dans toute une partie du livre consacrée à la Perishut, à l'option pharisienne, et à la page 267 du troisième volume de Orot HaKodesh, et qui dit ceci. Il est vrai que l'enseignement de la Torah, c'est comme dit Maïmonide, le Rav Kook ne cite ni Maïmonide ni Nachmanide, mais il parle du même problème. C'est la voie moyenne. Celui qui pratique l'ensemble des commandements de la loi, celui-là est sur le chemin de la sainteté. Mais il nous dit, le long du développement de l'histoire, de l'histoire spirituelle de l'humanité, il est nécessaire que des héros de la vertu soient les éclaireurs de pointe qui vont déchiffrer ou défricher le chemin pour les autres. Ceux-là doivent s'engager dans l'extrémisme de l'intensité de la vertu et donc dépasser l'attitude de la voie moyenne. Et donc, la voie de Maïmonide, c'est pour la communauté. La voie de Nachmanide, c'est pour des êtres d'élite qui vont explorer la pratique d'une vertu pour l'avenir, et alors ils vont montrer la voie. Il faut les suivre, mais ne pas les imiter, dit le Rav Kook. Je voudrais bien essayer d'expliquer au moins cela. Parce que, essayons de prendre une image. Si vous voulez, il y a dans tout combat, il y a une élite qu'on envoie en avant pour faire des performances. Alors ils ouvrent la route et on sait comment suivre les performances qu'ils ont commencées. Mais celui qui voudrait les imiter se casserait la figure. Vous voyez à peu près le problème. Par conséquent, c'est vrai, il y a ces deux voies. La voie moyenne, que la pratique de la loi, c'est ça la sainteté, mais il y a une autre voie. Parce qu'à propos de chaque commandement, il faut les éclaireurs de l'avenir, de la lumière de ce commandement plus loin. Alors ceux-là, c'est des héros qui se lancent en avant, il faut les suivre, mais pas les imiter. J'ai répété ça trois fois parce que c'est un problème aussi contemporain. Je pense que c'est clair. Voilà donc pour le deuxième point, c'est-à-dire l'option de sainteté dans le pharisaïsme. Et puis, je me bornerai finalement à un point très bref sur l'option méthodologique. Ce sera ma conclusion. Vous aurez la parole s'il y a des questions à poser. Je vous demanderai de rassembler toutes ces indications que nous allons mettre en jeu de débat dimanche après-midi à la fin de toutes nos études. C'est ceci. Je crois que depuis une cinquantaine d'années, en tout cas en France, depuis après la guerre mondiale, l'idée que la culture juive, que la sagesse juive, que la tradition juive est une grande culture, une grande sagesse, une grande tradition, est une idée qui a fini par devenir une évidence. Je me souviens d'un temps où j'étais moi-même jeune étudiant, où c'était une aberration de parler de nos livres comme de grands livres. Vous avez de la chance, vous n'avez aucune idée à quel point, peut-être pas tellement, parce que vous avez déjà fait cette découverte, pour d'autres elle serait encore à faire. C'est ça la chance, c'est qu'on a encore des découvertes à faire. Mais finalement, disons, c'est un thème qui est entré dans les mœurs. On fait des études juives. Eh bien, ça a déclenché de nouveau, d'une part, une relation à la tradition pharisienne, mais d'autre part, un foisonnement de tendances sadducéennes, chez des juifs pratiquants comme des non-pratiquants. Mais, et peut-être d'ailleurs que le sadducéisme des juifs pratiquants est plus grave que celui des non-pratiquants. Mais j'ai surtout en tête, si vous voulez, la formulation de type universitaire des études juives. Je ne voudrais pas trop particulariser nommément ces problèmes, peut-être qu'on sera obligé de le faire un jour, mais enfin il y a un risque, si vous voulez, de tromperie. Je ne sais pas comment dire, de non-honnêteté intellectuelle, à présenter des analyses et des textes de tendance sadducéenne comme si ils représentaient la tradition juive pharisienne. Pour l'ignorant, bien sûr, pour le public non initié, disons, on ne voit pas la différence. Mais il y a là, si vous voulez, des fausses pistes qu'il faudra bien dénoncer un jour et avec beaucoup de force. C'est pourquoi je ne veux pas encore, peut-être dans quelques années, je ne sais pas, le temps viendra, je ne veux pas dire nommément ces choses-là. Vous comprenez la réserve que j'ai. Mais c'est un problème qui commence à devenir inquiétant. En ce sens que l'option sadducéenne, que je vais essayer de définir méthodologiquement et idéologiquement, se présente comme si elle était la tradition pharisienne. Or, quelle est la différence? Et je crois que là, il faut être tout aussi clair que j'ai essayé de l'être au début par rapport à la prophétie hébraïque. Eh bien, l'option sadducéenne, c'est tout simplement qu'il y a un fait culturel qu'on ne peut pas nier, que parfois on exploite, les grands livres de la tradition juive. Et alors, on les étudie avec ferveur, parce que tout de suite on y perçoit la dimension d'une grande sagesse. On les étudie, on essaye de comprendre, et on croit en ce que l'on comprend. Vous voyez, cette espèce d'aberration intellectuelle pure et simple. En quoi croit un sadducéen? En ce qu'il a compris dans les textes. Alors que l'option pharisienne est exactement l'inverse. On croit que c'est la révélation de vérité aux Hébreux. Et elle nous a été transmise dans les articles de foi. Et nous savons en quoi nous croyons. Et puis on étudie pour comprendre en quoi on croit. La méthode, la démarche et le résultat est exactement le contraire. Je pense que j'ai été suffisamment clair, mais je terminerai sur ce point simplement en rappelant les formules. Qu'est-ce que c'est qu'un sadducéen, surtout quand il ne dit pas son nom? Et quand est-ce qu'il est le plus dangereux? C'est quand il pratique. Parce que là, c'est le vrai pharisien de l'Évangile qui fait semblant de pratique. Oui, quelqu'un qui pratique et qui ne croit pas, c'est très dangereux. Ouais. Et alors, le sadducéen étudie la Torah. Mais il l'étudie avec des dictionnaires. Et puis, il a le résultat de ses dictionnaires, finalement. Et puis, il croit en ce qu'il a trouvé. Vous vous rendez compte dans le nombre de stupidités dans lesquelles il peut croire? Parce que si vous lisez la Bible sans la clé de la tradition, c'est un livre d'abord étrange et ensuite incompréhensible et qui se contredit à chaque lettre. Et il y a des gens qui croient ça. Et avec ferveur. Alors que le pharisien, lui, croit que c'est la vérité. Et il étudie pour comprendre en quoi il croit. C'est ça l'option pharisienne du judaïsme.
Je voudrais profiter de l'occasion de cette première soirée, et avant de donner la parole à tous nos amis qui voudraient poser quelques questions, j'étais très impressionné, surtout par la richesse de cet exposé, l'existence tout de même à l'intérieur du mouvement pharisien de plusieurs courants de pensée, mouvement très riche, mouvement qui n'est pas du tout une secte monolithique avec des chefs et des adeptes, mais une école avec des maîtres et des disciples. Je me rappelle de ce que disait le professeur Ishaïa Leibovitch à Jérusalem. Finalement, il n'y a pas dans le monde juif des sectes qui croient à la Bible, qui croient à l'écriture. Et il se pose la question, Qui a décidé que l'écriture est sacrée? Et en quoi consiste cette écriture? Et une réponse, c'est ça, tout simplement la Mishnah Yadayim. Autrement dit, c'est un texte de la tradition orale qui a fixé quelles sont les limites de cette tradition écrite dans laquelle il faut croire, puisque finalement, dans l'Antiquité hébraïque, il y avait toute une multitude de textes qui étaient perçus plus ou moins par le peuple comme sacrés à différents niveaux. Il y a donc toute une problématique qui est celle d'une tradition orale qui accompagne cette tradition écrite. Je voudrais donc donner la parole donc, s'il y a des questions, parce que c'est beaucoup peut-être le plus important de voir vos réactions à ce premier exposé auquel vont suivre bien entendu d'autres.
Oui. J'entends mal, pardon. Parlez plus fort. Écoutez, je vais vous dire, votre question est très importante, elle est au centre du sujet, il nous faudrait des heures d'études ensemble avant d'abord d'avoir le même vocabulaire. Parce que lorsque vous m'avez cité, vous avez changé un mot, mais un mot très important. Et je n'ai pas dit que les juifs n'avaient pas de croyance propre, croyance. J'ai dit que les prophètes hébreux n'ont pas mis leur équation personnelle, une équation personnelle qui serait celle du psychisme hébreu, entre Dieu et l'homme. Ce qui est le propre de toutes les autres cultures. Cas particulier de l'islam, si on a le temps, je vous en parlerai aussi. Mais voilà ce que je veux dire très exactement. Simplement en vous citant d'ailleurs la bracha que nous lisons avant la haftara lorsque nous lisons les prophètes. Et nous parlons des prophètes que Dieu a aimés parce qu'ils parlaient en prophètes de vérité. « Veratza v'edibrehem aneemarim behemet » Dans le vocabulaire biblique, nous avons cette expression difficile à comprendre. Il y a des prophètes de vérité et des prophètes de mensonge. Comment peut-on être prophète de mensonge? C'est-à-dire authentiquement prophète, capable d'être prophète et authentiquement de mensonge. D'après mon analyse, je dirais de la manière suivante. Celui qui met son équation personnelle entre sa prophétie, entre ce qu'il a écouté et ce qu'il dit, c'est ça le prophète de mensonge. Ce que je vous dis, que vous entendez d'abord comme postulat, mais bien entendu, je ne me hasarderai pas à une telle affirmation s'il n'y avait pas des sources derrière, c'est que ce qui a caractérisé la prophétie hébraïque, c'est que, bien que les Hébreux aient leur style propre, de leur manière d'être homme, l'histoire a montré, et je sais que ce que je dis là est sujet de controverse, bien entendu, je suis prêt à y participer le cas échéant, mais sur source, eh bien, c'est le seul cas où il n'y a pas eu équation personnelle, humaine, entre la parole de Dieu et l'écoute. Chaque fois qu'un juif met sa conception des choses entre la Bible et ce qu'il en dit, c'est du sadducéisme, c'est plus du pharisaïsme. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le pharisaïsme, c'est cette fidélité à l'option hébraïque, Dieu seul, et même pas mon génie, moi Israël, comme médiateur. Et je comprends très bien, étant donné que dans la culture contemporaine, comme dans toutes les autres cultures, l'évidence est l'évidence inverse, qu'il n'y a de culture qu'à travers les équations personnelles. Ce que dit l'hébreu, là, le juif, ce que je vous dis là, apparaît comme aberrant, étrange, irréel. Qu'est-ce que ça veut dire? Une culture humaine où il n'y ait pas d'équation personnelle, culturelle, humaine. Eh bien, ça a été le choix de Dieu, d'après le récit biblique. Ou pour employer un langage immanent, ou universitaire, c'est ce qu'atteste l'histoire a posteriori. La seule parole de Dieu qui est donnée en direct et qui continue à être, reconduite, retransmise en direct, c'est la parole hébraïque. Il n'y en a pas d'autre. Si vous faites une étude, honnête de l'histoire des religions, eh bien, il en résulte la donnée suivante. Il y a beaucoup d'autres expériences religieuses que l'expérience hébraïque, et de valeur. Mais ce sont toutes des religions immanentes, ce sont des religions historiques. C'est un fait religieux qui va de l'homme vers son Dieu. Le cas particulier des Hébreux, c'est que c'est l'inverse. C'est Dieu qui s'adresse aux Hébreux. Pourquoi a-t-il choisi de s'adresser aux Hébreux? C'est parce qu'ils étaient les seuls à parler sa langue. Ça ne veut pas dire, une minute, ça ne veut pas dire, si vous voulez, que même un juif ne peut pas faire dire à la Bible des choses que Dieu n'a pas dites. Bien sûr, c'était l'objet de l'exposé de vous montrer que le souci pharisien, c'est précisément de se garder de cela. Et c'est pourquoi, dans la société juive elle-même, il peut y avoir ces tendances pharisiennes de projection d'une attitude philosophique sur la lecture biblique ou, de type essénienne, de projection d'une attitude mystique sur la lecture biblique. Elle vient des Hébreux, parce que des Juifs, parce que les Juifs sont des hommes, mais elle sort des Hébreux dans l'autre sens, tarte et machma. Ça sort des Juifs, mais ça sort. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va en dehors. Okay? C'est normal que ça sorte des Juifs, ça aussi, mais ça sort. Ce qui reste permanent dans l'élan vital central, pour parler comme Bergson, c'est la tradition pharisienne. Et, si vous voulez, cette intensité de fidélité a fait qu'à travers toutes les époques, nous n'avons pas changé de nom. Les Sadducéens changent de nom, les Esséniens changent de nom, les pharisiens ne changent pas de nom. Vous comprenez où est cette permanence? Que vouliez-vous dire? Oui. Ah, pourquoi la prophétie s'est arrêtée? C'est une catastrophe, okay? Mais elle était prévue. Je vais vous dire en quoi c'est à mettre en relation. C'est à mettre en relation avec la destruction de la nation hébraïque. Je le dirais dans deux dimensions. La nation hébraïque, c'est-à-dire le tout Israël, c'était 12 tribus qui étaient 13. Et puis 10 tribus ont été détruites. Il n'en reste que 2. Le poste récepteur a été détraqué. La prophétie s'est arrêtée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas encore émise, elle n'est plus captée. Et puis, en même temps, a commencé la dispersion. Ce poste ne fonctionne qu'en Eretz Israël. À partir du moment où les Juifs sont dispersés, la prophétie continue dans le sens de l'émission, mais n'est plus écoutée, parce que le poste est dispersé. Non seulement il est détraqué, mais il est dispersé. C'est à mettre en relation avec ces deux dimensions. La destruction des 10 tribus, et qui a fait que l'identité judéenne était une sorte de diminution de l'identité hébraïque, on entend faiblement, parce qu'il manque 10 lampes sur les 12 dans le poste en question. Okay? Et puis d'autre part, ces deux lampes, elles sont la Torah en miettes, si j'ose dire, elles sont dispersées dans le monde. Alors nous sommes peut-être en un temps où ça se rassemble, ça se construit, le poste est en train de se construire, Kan Shidore Israël, Kol Israël, Pergola, pour la Gola. Oui, à peu près ce que je veux dire. Bon, c'est ce qu'ont annoncé les prophètes. Ceci est enseigné de façon beaucoup plus forte par Judas Lévi dans le Kuzari. Le phénomène de la prophétie est un phénomène hébreu et d'Eretz Israël. Je pense que c'est clair. Ken? Attendez, je vous en prie, je vous demande par méthode, j'ai l'habitude de répondre à chaque question d'abord. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Slera? Ken? Oui. Là encore, je vous dirais, dans ma mémoire en tout cas, il y a une question de vocabulaire. Je vous ai cité une phrase du Talmud, et j'ai pris la précaution de dire deux fois, comme quoi il faut se répéter 100 fois. Que ce que cette phrase du Talmud disait n'était pas du tout dévalorisant, au contraire. Vous vous rappelez que j'ai dit ça? Que à partir du moment où d'ailleurs c'est enregistré, qu'à partir du moment où la prophétie a cessé, dit le Talmud, elle continue. chez les enfants et les fous. J'aurais dû dire chez ceux qu'on appelle les enfants et chez ceux qu'on appelle les fous. J'entends bien que nous sommes sur le bord d'un problème vertigineux. Et j'ai dit tout de suite, et je le répète, que ça ne dévalorise pas ce terme de enfant ou de fou. Au contraire, ça le valorise. Ça veut dire que lorsqu'un enfant parle, enfant vraiment, pas un gosse, un enfant. Exactement. Exactement. Alors attendez, on a parlé des enfants, j'arrive. Attendez. Oui, mais je continue. Et alors donc, ce qui est vrai de l'enfant est vrai d'une autre manière de ce qu'on appelle le fou. J'espère pour moi qu'il y a des spécialistes dans la salle, pas de la folie, mais de la... Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a différents... Ce mot... Écoutez, j'essaye de vous dire à la lettre et exactement le contraire. Mais laissez-moi le temps de le dire. Ça veut dire que ce que l'on appelle un fou, d'après le Talmud, passe encore de la prophétie. Seulement, on ne sait plus le comprendre.
Je vais poser une question. Je voudrais poser une question en profitant de cette conférence. Parce qu'il y a tout de même un point qui me semble très important, qui n'a pas été encore abordé, qui me semble bien entendu, j'espère que vous viendrez nombreux aux autres conférences, mais il y a tout de même un certain nombre de points qui me semblent très très nécessaires à aborder. Tout d'abord, le premier point, c'était le point du pluralisme interne sur lequel je suis revenu déjà une fois. J'aimerais encore revoir... J'avais dit il y a quelque temps qu'à mon avis, la grande différence entre le mouvement pharisien et les autres mouvements, c'est que le mouvement pharisien était le seul à tolérer la possibilité de plusieurs interprétations, alors que tous les autres mouvements avaient le principe de la méthode unique. Avec les Sadducéens croyaient à une interprétation littérale des Écritures, ne pouvant pas ajouter une autre dimension à celle de la littéralité. Les Esséniens avaient une méthode bien à eux, la méthode du pêcheur, qui expliquait toute la Torah par une sorte de mystère, par une sorte de principe des arcanes. En ce qui concerne les Samaritains, qui n'acceptaient que les 5 livres de la Torah et le livre de Josué, ils avaient aussi leur méthode propre d'interprétation. Les chrétiens, eux, interprétaient la Bible dans une perspective apologétique, dans une perspective de considérer l'Ancien Testament comme les rêmes, comme l'allégorie des événements postérieurs, comme une anticipation historique de ce qui viendra dans la suite des temps. La méthode pharisienne était la seule qui était multiple, qui admettait la notion de plusieurs possibilités d'interprétation. Alors, vous avez dit quelque part, il y a quelque temps, que cela avait des limites précises. C'est-à-dire que ce pluralisme n'était pas extensible à l'infini et qu'il y avait des limites à fixer à cette idée-là de Shivim Panim la Torah, de la multiplicité des courants à l'intérieur de l'interprétation. Et pourquoi et quelles sont ces limites à l'intérieur?
En fait, je pense que cette question va être touchée dans la conférence de demain par M. Ancel. Ça ressort de son sujet, c'est pourquoi je n'y ai pas fait allusion. Mais nous allons essayer de prendre un exemple. Ou plus exactement, une référence que j'ai d'ailleurs préparée dans Maïmonide. C'est ceci. À partir du moment où le phénomène que j'ai appelé expérimental, objectif, de la prophétie a cessé historiquement, et je dois un peu nuancer, ce n'est pas un arrêt brusque. Il y a un phénomène, j'ai encore déjà employé le mot tout à l'heure, que j'emprunte au vocabulaire de la lumière, un phénomène de rémanence. Même lorsque la perception a cessé par le fait que la cause de la représentation, l'excitant, n'est plus là, eh bien, il y a encore impression de la rétine, un phénomène de rémanence de lumière, bien que la cause de l'image ou de la sensation ait disparu. C'est ce que nous appelons, et ça a duré des siècles, c'est ce que nous appelons